Sénèque, lettre à Lucilius, lettre 63. Ne point s'affliger sans mesure de la perte de ses amis. Tu es chagrin de la mort de Flaccus, ton ami, mais je ne voudrais pas t'en voir affecté plus qu'il ne convient. Ne pas l'être du tout, j'aurais peine à te le demander. Tout sûr que je suis que ce serait le mieux. Mais à qui cette fermeté d'âme serait-elle donnée, sinon à l'homme qui s'est déjà mis fort au-dessus de la fortune? Cet homme même éprouverait alors un commencement d'émotion, mais rien qu'un commencement. Pour nous, on peut nous excuser de nous laisser aller aux larmes si elles ne coulent pas avec excès, et si nous-mêmes savons les arrêter. Nos yeux ne doivent ni demeurer secs à la perte d'un ami, ni s'épuiser de larmes. Il faut pleurer, mais non se fondre de douleur. Tu trouves dure la loi que je t'impose, et pourtant, le prince des poètes grecs n'accorde le droit de pleurer que pour un seul jour, et il a dit que Niobé même songea à prendre de la nourriture. Veux-tu savoir d'où viennent les lamentations, les pleurs immodérés? On veut afficher par là ses regrets. On ne cède pas à son affliction. On en fait parade. Ce n'est point pour ce qu'on souffre qu'on est triste, déplorable folie, de la prétention jusque dans les larmes. Et quoi? Oublierai-je mon ami? Il est bien court le souvenir que tu lui promets, s'il ne dure pas plus que ta douleur. Ce front, si rembruni, va s'éclaircir au moindre sujet de rire qu'offrira le hasard. Je ne te renvoie pas même à cette longueur de temps qui adoucit tous les regrets et calme les plus violents désespoirs. Dès que tu cesseras de t'observer, ce fantôme de tristesse s'évanouira. À présent, tu choies ta douleur. Tu la choies, et encore t'échappe-t-elle. Plus elle est vive, plus elle cesse vite. Appliquons-nous à trouver des charmes aux souvenirs de nos amis perdus, car on n'aime pas à revenir sur une pensée constamment douloureuse. Toutefois, si c'est pour l'homme une loi nécessaire qu'il ne puisse, sans un serrement de cœur, se rappeler ses noms chéris, cette émotion non plus n'est pas sans jouissance. En effet, suivant le mot de notre Attalus, le souvenir d'un ami qui n'est plus a pour nous cette douceur un peu âpre qui plaît dans certains fruits. Comme en un vin trop vieux, son amertume même nous flatte. Mais après quelque temps, toute âpreté s'émousse, et le plaisir nous arrive, sans mélange. Si nous l'en croyons, penser à nos amis vivants, c'est savourer le miel et les gâteaux les plus exquis. Se ressouvenir de ceux qui ont cessé d'être une satisfaction quelque peu acerbe. Or, on ne contestera pas que l'acidité aussi et toutes les saveurs d'un genre sévère stimulent l'estomac. Moi, je pense autrement. La mémoire de mes amis morts m'est douce et attrayante, car je les ai possédés comme devant les perdre. Je les ai perdus comme les possédant encore. Prends donc, cher Lucilius, un parti qui convienne des sentiments d'équité. Cesse de mésinterpréter le don que te fit la fortune. Elle l'a repris, mais elle l'avait donné. Jouissons pleinement de nos amis. Qui sait pour combien de temps ils nous sont laissés? Songeons que deux fois nous les quittâmes pour quelque lointain voyage. Combien, demeurant au même lieu, nous fûmes souvent sans les voir. Nous reconnaîtrons que de leur vivant, la privation a été plus longue. Mais comment souffrir ces hommes qui, après avoir tant négligé leurs amis, les pleurent si lamentablement, et ne vous aiment que s'ils vous ont perdu. Le chagrin déborde avec d'autant plus d'effusion qu'ils ont peur qu'on ne mette en doute s'ils furent bons amis. C'est chercher tard à faire ses preuves. A-t-on d'autres amis? C'est mal mérité d'eux. C'est peu les estimer, comme incapables à eux tous de nous consoler d'une seule perte. N'en a-t-on point d'autres? On s'est fait soi-même plus de tort qu'on en a reçu de la fortune. Elle ne nous a pris qu'un ami. Nous n'avions pas su en faire un second. Et puis, dans son amitié unique, il n'a pas mis d'excès l'homme qui n'a pu en acquérir plus d'une. Celui qui, dépouillé par un vol de son seul vêtement, aimerait mieux déplorer son sort que d'aviser au moyen de se parer du froid, de trouver à couvrir ses épaules, ne te semblerait-il pas un grand fou? L'être que tu aimais dans la tombe cherche un cœur à aimer. Mieux vaut réparer ta perte que de pleurer. Je vais ajouter une vérité bien rebattue, je le sais. Néanmoins, je ne veux pas l'omettre, quoique tout le monde l'ait dite. Le terme des douleurs, qui n'a point fait cesser la raison, arrive avec le temps. Or, pour l'homme sensé, la plus honteuse manière de guérir, c'est de guérir par lassitude. Mieux vaut renoncer à ton chagrin que d'attendre qu'il renonce à toi. Sèche donc au plus tôt des larmes qui, lors même que tu le voudrais, ne peuvent longtemps couler. Nos pères ont limité à une année le deuil des femmes, non pour qu'elles pleurassent tout ce temps, mais pour qu'il ne fût point dépassé. Chez l'homme, aucun délai n'est légitime, parce qu'aucun ne lui fait honneur. Eh bien, de toutes ces inconsolables qu'on eut peine à retirer du bûcher, à séparer du cadavre de leurs époux, cite-m'en une, dont les larmes aient duré tout un mois. Rien ne rebute si vite que le spectacle de l'affliction. Récente, elle trouve des consolateurs, et s'attire quelque sympathie. Invétérée, elle prête au ridicule et avec raison. C'est alors hypocrisie ou sottise. Voilà ce que j'ose décrire, moi qui ai pleuré si immodérément mon cher Anaïus Serenus, qu'à mon grand déplaisir, je suis un exemple de ceux que la douleur a vaincus. Mais je condamne aujourd'hui ce que j'ai fait alors, et je vois que la plus grande cause de ma vive affliction venait de n'avoir jamais pensé qu'il pouvait mourir avant moi. Je ne me représentais qu'une chose, que j'étais son aîné, et son aîné de beaucoup, comme si le destin suivait l'ordre des âges. Souvenons-nous donc, à chaque instant, que nous et tous ceux que nous aimons sommes mortels. Je devais me dire, mon frère Serenus est plus jeune que moi. Mais que fait cela? Il devrait mourir après moi comme il peut mourir avant. Je n'y songeais point, je n'étais pas prêt. Et tout d'un coup la fortune m'a frappé. Maintenant, je me répète que tout est mortel et que la mort n'a point de règle fixe. Dès aujourd'hui peut arriver ce qui peut arriver un jour quelconque. Pensons donc, cher Lucilius, que nous serons bientôt nous-mêmes où nous sommes si fâchés qu'il soit. Et peut-être, si, comme l'ont publié les sages, il est un lien qui reçoive nos âmes, l'ami que nous croyons perdu n'a fait que nous devancer. Lettre 64. Éloge du philosophe Quintus Sextius. Respect dû aux anciens, instituteurs de l'humanité. tu étais hier avec nous. Tu pourrais te plaindre si ça n'avait été qu'hier. Aussi ajoutai-je avec nous, car avec moi tu y es toujours. Il m'était survenu de ces amis pour lesquels on fait plus grande fumée, non pas celle que vomissent les cuisines de nos gourmands et qui donne l'alarme aux gardes de nuit. C'était cette fumée, modeste encore, qui révèle la venue de quelques hôtes. La conversation fut variée, comme est celle d'un repas sans mener à fin aucun sujet, mais sautant d'une chose à une autre. On lut ensuite un ouvrage de Quintus Sextius le père, homme supérieur, si tu m'en crois, et bien qu'il le nie, stoïcien. Bon Dieu, que de vigueur, que d'âme! On ne trouve pas cela chez tous les philosophes. Combien dont les écrits n'ont d'imposant que le titre, et sont des corps vides de sang. Ils dogmatisent, ils disputent, ils chicanent. Ils n'élèvent point l'âme, car ils n'en ont pas. Lis Sextius, et tu diras, voilà de la vie, du feu, de l'indépendance, voilà plus qu'un homme. Il me laisse plein d'une foi sans bornes. En quelque situation d'esprit que je sois quand je le lis, je te l'avouerai, je défierai tous les hasards et je m'écrierai volontiers. Que tardes-tu, ô fortune? Viens sur l'arène, tu me vois prêt. Je sens en moi l'ardeur de cette ascagne qui cherche où s'essayer, ou faire preuve d'intrépidité, qui souhaiterait qu'au lieu de faible daim, un sanglier sauvage et un lion rugissant provoquât son courage. Je voudrais avoir quelque chose à vaincre, de quoi m'exercer à la souffrance. Car Sextius a aussi ce mérite qu'il vous montre la grandeur de la souveraine félicité sans vous ôter l'espoir d'y atteindre. Il vous apprend qu'elle est placée haut, mais accessible à l'homme résolu. C'est le sentiment qu'inspire aussi la vertu. On l'admire, et pourtant on ne désespère point. Pour moi, certes, je donne un temps considérable à la seule contemplation de la sagesse. Je ne l'envisage pas avec moins d'étonnement que l'univers lui-même, qui me frappe souvent comme un spectacle nouveau pour mes yeux. Aussi, je vénère les découvertes de la sagesse et leurs auteurs. Je brûle de les partager comme l'héritage d'une longue suite d'aïeux. C'est pour moi qu'ils l'amassèrent, pour moi qu'ils y mirent leur sueur. Mais agissons en bon père de famille, agrandissons l'héritage et qu'il passe plus riche à nos neveux. Il reste encore et il restera beaucoup à faire. Et pour qui naîtra 1000 siècles plus tard, la voie à de nouvelles conquêtes ne sera pas fermée. Mais lors même que nos devanciers auraient tout découvert, il y aura toujours, comme nouveauté, l'application, la science, qui choisit et combine ce que les autres ont trouvé. Suppose qu'on nous ait laissé des recettes pour guérir les maux d'yeux. Je n'ai plus à en chercher d'autres, mais à employer celles que je connais, suivant le cas et la circonstance. Telle chose ramollit les tumeurs de l'œil, telle autre diminue le gonflement des paupières. Ceci détourne le feu subi de la fluxion. Cela rend la vue plus perçante. Il faut broyer ces drogues, choisir le moment, mesurer les doses pour chaque mal. Les remèdes de l'âme ont été trouvés par les anciens. Quand et comment les appliquer, c'est là notre tâche, notre étude à nous. Ils ont fait beaucoup, ceux qui nous ont précédés, mais ils n'ont pas tout fait. Ils n'en méritent pas moins notre admiration et un culte analogue à celui des dieux. Pourquoi n'aurais-je pas les portraits de ces grands hommes comme des encouragements à bien faire? Et ne fêterai-je pas les jours où ils sont nés? Pourquoi ne prononcerai-je pas leur nom avec un sentiment de vénération. Celle que je dois au maître de mon enfance, je la porte à ses précepteurs du genre humain, par qui les sources du bien suprême ont découlé sur nous. Si je rencontre un consul ou un prêteur, je leur rends tout l'honneur dû à d'honorables personnages. Je descends de cheval, je me découvre la tête, je cède le passage. Et les deux Catons, et le sage Lélius et Socrate avec Platon, et Zénon et Cléante. Je les recevrai dans mon âme sans offrir un digne hommage à tant de mérite? Non, je les salue de tous mes respects. Je me lève toujours devant ces grands noms. Lettre 65. Opinion de Platon, d'Aristote et des Stoïciens sur la cause première. La maladie m'a pris une partie de la journée d'hier. Toute la matinée a été pour elle. Elle ne m'a laissé que l'après-midi. J'en profitais d'abord pour essayer de la lecture. Puis, mon esprit l'ayant pu soutenir, je me risquais à lui commander, ou plutôt à lui permettre davantage. Je me mis à écrire, et même avec plus d'application qu'à l'ordinaire, en homme qui lutte avec un sujet difficile et qui ne veut pas être vaincu. Enfin, il me vint des amis qui me firent violence et m'arrêtèrent tout court comme un malade intempérant. Je cessai d'écrire pour converser. Et je vais t'exposer le sujet sur lequel nous sommes en litige. Nous t'avons constitué arbitre. Tu as plus à faire que tu ne penses. Trois parties sont au procès. Nos stoïciens disent, comme tu sais, qu'il y a dans la nature deux choses, principes de tout ce qui se fait, la cause et la matière. La matière, gisante et inerte, se prête à tout, toujours au repos, si nul ne la met en mouvement. La cause, c'est-à-dire l'intelligence, façonne la matière et lui donne le tour qui lui plaît. Elle en tire des ouvrages de toute espèce. Il faut donc qu'il y ait et la substance dont se fait la chose et l'action qui la fait. Celle-ci est la cause, l'autre est la matière. Tout art est une imitation de la nature. Et ce que je disais touchant l'œuvre de la nature doit s'appliquer aux œuvres de l'homme. Une statue a exigé une matière qui souffrit le travail de l'artiste, et un artiste qui donna à cette matière une figure. Dans cette statue, la matière était les reins, la cause, le statuaire. Toute autre chose est dans ses conditions. Elle se compose de ce qui prend une forme et de ce qui la lui imprime. Les stoïciens veulent qu'il n'y ait qu'une cause, la cause efficiente. Suivant Aristote, la cause est de trois genres. La première, dit-il, est la matière même sans laquelle rien ne peut se faire. La seconde est l'ouvrier. La troisième est la forme, qui s'impose à chaque ouvrage comme à la statue, et qu'il appelle un effet eidos. Il en ajoute une quatrième, le but de l'œuvre entière. Éclaircissons ce dernier point. Les reins est la cause première d'une statue, car jamais elle n'eût été faite sans une matière fusible ou ductile. La deuxième cause est l'artiste. Cet airain ne pouvait devenir et figurer une statue si des mains habiles ne s'y étaient employées. La troisième cause est la forme. Cette statue ne s'appellerait pas le Doryphore ou la Diadumène si on ne lui en eût donné tous les traits. La quatrième cause est le but dans lequel on l'a faite, puisque sans ce but, elle ne serait pas. Qu'est-ce que le but? Ce qui a inventé l'artiste, ce qui lui a fait poursuivre son travail. Ce peut être l'argent s'il l'a fabriqué pour la vendre, la gloire s'il a travaillé pour avoir un nom, la piété s'il voulait en faire don à un temple. C'est donc aussi une cause que la destination de l'œuvre. Et ne penses-tu pas qu'au nombre des causes d'exécution, on doive mettre celle sans laquelle rien n'eût été fait? Platon en admet encore une cinquième, le modèle qu'il appelle idée. C'est ce qu'a devant les yeux l'artiste en faisant ce qu'il a l'intention de faire. Or, il importe qu'il ait ce modèle hors de lui pour y reporter son regard, ou qu'il l'ait conçu et posé au-dedans de lui-même. Ces exemplaires de toutes choses, Dieu les possède en soi, les nombres et les modes de tous les objets à créer sont embrassés par la pensée divine. Elle est pleine de ces figures que Platon nomme les idées immortelles, immutables, inépuisables. Ainsi, par exemple, les hommes périssent. Mais l'humanité par elle-même, d'après laquelle est formé l'homme, est permanente. Ceux-là ont beau souffrir et mourir, celles-ci n'en sont nul dommage. Les causes sont donc au nombre de cinq d'après Platon. La matière, l'ouvrier, la forme, le modèle, le but. Après quoi vient le produit de tout cela. Ainsi, dans la statue dont nous parlions en commençant, la matière c'est les reins, l'ouvrier c'est le statuaire, la forme ce sont les traits qu'on lui donne, le modèle c'est le type imité par l'art, le but est le motif de l'artiste, le résultat définitif la statue. Le monde, ajoute Platon, est un effet des mêmes causes. Il a Dieu pour créateur, pour matière une masse inerte, pour forme cet ensemble et cet ordre que nous voyons. Pour modèle, la pensée, d'après laquelle Dieu a fait ce grand et magnifique ouvrage. Pour but, l'intention qui le lui a fait faire. Et cette intention, quelle fut-elle? Toute de bonté. Ainsi, du moins, lui dit Platon. Pour quelle cause Dieu a-t-il créé le monde? Dieu est bon. L'être bon n'est jamais avare du bien qu'il peut faire. Il a conséquemment créé le meilleur possible. Te voilà juge. Porte ton arrêt et prononce lequel des deux systèmes te paraît le plus vraisemblable. Je ne dis pas le plus vrai, car ces choses sont au-dessus de nous tout autant que la vérité elle-même. Ce grand nombre de causes qu'Aristote et Platon établissent comprend trop ou trop peu. Car si tout ce sans quoi rien ne peut se faire est à leurs yeux cause efficiente, ils ont dit trop peu. Qu'ils mettent au nombre des causes le temps, sans le temps rien ne peut se faire, le lieu, on ne peut faire une chose sans qu'il y ait un lieu pour la faire. Le mouvement, sans lui rien ne se fait, rien n'est détruit. Sans mouvement, point d'art, point de transformation. Mais ici, nous cherchons la cause première et générale. Elle doit être simple, car la matière aussi est simple. Nous cherchons la vraie cause, c'est-à-dire la raison créatrice, car tout ce que vous avez énuméré ne constitue pas plusieurs causes distinctes, mais se rattache à une seule, à celle qui crée. La forme, dis-tu, est une cause. Non, cette forme que l'ouvrier imprime à son ouvrage est une partie de cause, non une cause. Le modèle non plus n'en est pas une. C'est un moyen dont la cause a besoin. L'artiste a besoin de modèles, comme de ciseaux, de lime. Sans toutes ces choses, l'art ne peut procéder. Et pourtant, ce ne sont ni parties de l'art, ni causes. Le but de l'artiste, dit-on, ce pourquoi il se met à l'œuvre, est une cause. Quand c'en serait une, elles ne seraient pas efficientes mais accessoires. Or, celles-ci sont innombrables, et nous cherchons la cause la plus générale. Mais la sagacité ordinaire de ces grands hommes leur a fait défaut lorsqu'ils ont dit que le monde entier, que toute œuvre achevée est une cause. Il y a une grande différence entre l'œuvre et la cause de l'œuvre. Porte donc ton arrêt, ou ce qui est plus facile en de telles matières, dis que tu n'y vois pas assez clair, et ajourne-nous. Tu vas demander quel plaisir je trouve à consumer le temps sur des abstractions qui ne guérissent aucune passion, qui ne chassent nul mauvais désir. Mais je songe et travaille avant tout à ce qui fait la paix de l'âme. Je m'étudie d'abord et ensuite l'univers, et ce n'est pas là un temps perdu, comme tu l'imagines. Toutes ces questions, quand on ne les morcelle et ne les étire point en subtilité sans portée, élèvent, en l'allégeant, notre âme, qui, sous le poids étouffant de la matière, aspire à déployer ses ailes et à revoir un ordre de choses dont elle a fait partie. Ce corps est en effet un fardeau pour l'âme et un supplice. Il la gêne, il l'opprime. Elle est dans les fers si la philosophie ne lui vient en aide. Et, lui ouvrant le spectacle de la nature, ne la pousse à quitter la terre pour respirer dans le ciel. Ainsi, elle est libre. Ainsi, elle voyage. Elle se dérobe par intervalles. La prisonnière se refait là-haut de sa captivité. Comme après un travail délicat qui absorbait son attention et fatiguait sa vue, l'artiste, s'il habite une demeure sombre et mal éclairée, sort dans la rue et s'en va dans quelque lieu consacré au délassement public, où ses yeux puissent jouir de la libre lumière. Ainsi, l'âme, enclose dans son obscur et triste logis, prend le large toutes les fois qu'elle le peut et se repose dans la contemplation des scènes de l'univers. Le sage et l'aspirante à la sagesse, quoique enchaînés à leur corps, s'en détachent par la meilleure partie de leur être. Toutes leurs pensées tendent vers une sphère supérieure. Et pareil aux mercenaires engagés par serment, la vie est pour eux une milice. Ils ont habitué leur cœur à n'avoir pour elle ni affection ni haine, et se résignent à la condition mortelle, quoiqu'ils sachent que de plus amples destinées les attendent. M'interdiras-tu la contemplation de la nature? M'arracheras-tu à ce bel ensemble pour me réduire à un coin du tableau? Ne puis-je m'enquérir de quelle manière tout a pris commencement, qui a donné la forme aux choses, qui les a classées, toutes en les dégageant de cette masse unique, de l'inerte matière qui les enveloppait? Quel fut l'architecte du monde où je suis? Quelle intelligence a fixé des lois et un ordre à cette immensité, rassemblé ce qui était épars, séparé ce qui était confus? Donner une face distincte à tout ce qui gisait dans l'informe chaos. D'où cet océan de clarté jaillit-il? Est-ce un feu ou quelque chose de plus lucide encore? Ne puis-je sonder ces merveilles? J'ignorerais d'où je suis descendu, si je ne verrais qu'une fois ce monde, ou si je renaîtrais plusieurs fois, ou j'irais au sortir d'ici. Quel séjour est réservé à l'âme affranchie des lois de l'humaine servitude? Me défendre tout commerce avec le ciel, c'est m'ordonner de vivre le front baissé. Je suis trop grand et destiné à de trop grandes choses pour me faire le valet de mon corps, qui n'est rien à mes yeux qu'un réseau jeté autour de mon indépendance. Je l'oppose au coup de la fortune, pour qu'il s'y arrête, je ne permets point qu'il le traverse et qu'aucune blessure vienne jusqu'à moi. Tout ce qui en moi peut souffrir l'injure, c'est le corps. Dans cette demeure assiégée habite une âme libre. Non, jamais cette chair ne saura me réduire à la peur, me réduire à la dissimulation, indigne d'un cœur honnête. Jamais je ne veux mentir en l'honneur d'un tel acolyte. Quand il me plaira, je romprai l'alliance qui nous associe. Sans toutefois que même à présent, les parts entre nous soient égales. L'âme s'arrogera tous les droits. Le mépris du corps est le plus sûr gage de la liberté. Pour revenir à mon premier texte, l'étude dont nous parlions tout à l'heure contribue beaucoup à cette liberté. Tout, en effet, vient de la matière et de Dieu. Dieu régit l'immensité qui l'environne et qui suit en lui son modérateur et son chef. Or, l'être actif qui est Dieu est plus puissant et plus excellent que la matière passive sous sa main. La place que Dieu remplit en ce monde, l'esprit l'occupe dans l'homme. Ce qu'est dans le monde, la matière, le corps l'est en nous. Que la substance la moins noble obéisse donc à l'autre, soyons fermes contre les accidents du sort. Ne redoutons ni outrage, ni blessure, ni chaîne, ni indigence. La mort, qu'est-elle ? Une fin ou un passage ? Je ne crains ni de finir, c'est la même chose que de n'avoir pas commencé, ni de passer ailleurs, je ne serai nulle part si à l'étroit qu'ici. Lettre 66. Que tous les biens sont égaux et toutes les vertus égales. J'ai revu, après bien des années, Claranus, mon condisciple, et tu n'attends pas, je pense, que j'ajoute qu'il a vieilli. Mais je t'assure, il est plein de verdeur au moral et vigoureux, et il lutte de son mieux contre l'affaissement du physique, car la nature l'a iniquement traité. Elle a mal logé une pareille âme, ou peut-être a-t-elle voulu nous montrer que le caractère le plus énergique et le plus heureux peut se cacher sous telle enveloppe que ce soit. Il a néanmoins vaincu tout obstacle et, du mépris de son corps, il est venu à mépriser tout le reste. Le poète, selon moi, a eu tort de dire « Des grâces d'un beau corps la vertu s'embellit. Elle n'a besoin d'aucun embellissement. Elle est à elle-même son plus grand relief, et consacre le corps qu'elle fait bien. » Oui, j'ai bien considéré Claranus. Il me semble beau et aussi droit de corps que d'esprit. Un homme de haute taille peut sortir de la plus petite cabane comme une belle et grande âme d'un corps difforme et cassé. La nature produit de ces phénomènes, afin, je crois, de nous apprendre que la vertu peut naître partout. Si la nature pouvait d'elle-même enfanter des âmes nues, elle l'eût fait. Mais elle a fait plus en produisant quelques-unes qui, tout empêchées par le corps, se font jour néanmoins et rompent leurs entraves. Claranus me semble né comme exemple de cette vérité que la difformité physique n'enlaidit point l'âme, mais que la beauté de l'âme embellit le corps. Bien que nous ayons été fort peu de jours ensemble, nous avons eu de nombreux entretiens que je rédigerai successivement et que je te ferai parvenir. Le premier jour, nous traitâmes cette question. Comment les biens peuvent-ils être égaux s'ils sont de trois classes? Ceux qui, selon notre école, méprise le premier rang, sont, par exemple, la joie, la paix, le salut de la patrie. Comme bien de second ordre, fruit laborieux de tristes circonstances, il y a la patience dans les tourments, l'égalité d'âme dans la maladie. Nous souhaitons les premiers d'une manière immédiate, les seconds en cas de nécessité. Restent les biens de troisième ordre, comme une démarche modeste, un extérieur calme et honnête, la tenue d'un homme sage. Comment ces choses peuvent-elles être pareilles quand il faut désirer les unes et craindre d'avoir besoin des autres? Pour expliquer ces distinctions, revenons au bien par excellence et considérons-le tel qu'il est. Une âme qui envisage le vrai, éclairée sur ce qu'elle doit fuir ou rechercher, assignant aux choses leur valeur non d'après l'opinion, mais d'après leur nature, s'initiant dans tous les secrets et osant explorer toute la marche de la création, une âme qui veille sur ses pensées comme sur ses actes, dont la grandeur égale l'énergie, que ni menace ni caresse ne saurait vaincre, que l'une ou l'autre fortune ne maîtrise point, qui est supérieure aux heureuses et aux malheureuses chances, qui à la beauté unit la décence, à la vigueur la santé et la sobriété, imperturbable, intrépide, que nulle force ne brise, que les faits extérieurs n'enorgueillissent ni n'abattent point, une telle âme est proprement la vertu. Telle en serait l'image, embrassée d'une seule vue, dévoilée une fois tout entière. Mais elle a mille faces qui se développent suivant les états et les fonctions diverses de la vie, sans qu'elle en devienne, au fond, ni moindre, ni plus grande. Le souverain bien ne peut décroître ni la vertu rétrogradée. Mais elle se produit sous tel ou tel attribut et prend la manière d'être qui convient à chacun de ses actes. Tout ce qu'elle a touché s'empreint de son image et de sa teinte. Les actions qu'elle inspire, les amitiés qu'elle noue. Quelquefois, des maisons entières où l'harmonie rentre avec elle s'embellissent de sa présence. Il n'est rien où elle s'emploie qu'elle ne rende digne d'amour, de respect, d'admiration. Sa force et sa grandeur ne sauraient donc monter plus haut, puisque l'extrême élévation ne comporte plus d'accroissement. Tu ne trouveras rien de plus droit que la rectitude, de plus vrai que la vérité, de plus tempérant que la tempérance. Toute vertu a la modération pour base. La modération est la vraie mesure de tout. La constance n'a point à aller au-delà d'elle-même non plus que la confiance, la vérité, la loyauté. Que peut-on ajouter à la perfection? Rien, sinon il y avait imperfection là où l'on ajoutait. De même pour la vertu. Si l'on pouvait y ajouter, elle serait incomplète. L'honnête non plus ne saurait croître en nulle façon, car c'est pour cela même dont je parle qu'il est l'honnête. Que dirons-nous de ce qui est beau, juste, légitime? Ne forme-t-il pas un même genre compris dans d'immuables limites? La faculté de croître est un signe d'imperfection, et tout bien est soumis aux mêmes lois. L'intérêt privé se lie à l'intérêt public. Tout de même, certes, qu'on ne peut séparer ce qui est louable de ce qui est à désirer. Ainsi, les vertus sont égales, comme les œuvres qu'elles accomplissent, comme tous les hommes à qui elles se donnent. Quant aux plantes et aux animaux, leurs vertus, toutes mortelles, sont dès lors fragiles, caduques et incertaines. Elles ont des saillies puis s'affaissent. Aussi ne les estime-t-on pas le même prix. La règle qui s'applique aux vertus humaines est une, car la droite raison est une et simple. Rien n'est plus divin que le divin, plus céleste que le céleste. Les choses mortelles s'amoindrissent, tombent, se dégradent. On les voit grandir, s'épuiser, se remplir. La conséquence pour elles d'une condition si peu fixe est l'inégalité. Les choses divines ont une nature constante. Or, la raison n'est autre chose qu'une parcelle du souffle divin immergée dans le corps de l'homme. Si la raison est divine, et qu'il n'y a nul bien sans elle, tout bien est chose divine. Or, entre choses divines, point de différence, ni par conséquent entre les biens. Ce sont donc choses égales que le contentement et que la ferme persévérance dans les tortures. Car, dans les deux cas, la grandeur d'âme est la même. Dans l'un seulement, elle se dilate et s'épanouit, dans l'autre, elle lutte, elle tend tous ses ressorts. Et quoi? N'y a-t-il pas un égal courage à forcer intrépidement les remparts ennemis et à soutenir un siège avec une constance à l'épreuve? Scipion est grand quand il bloque et réduit Numance aux abois, quand il contraint des bandes invincibles à s'égorger de leurs propres mains. Mais grand aussi est le cœur de ces assiégés, qui savent que rien n'est fermé pour l'homme à qui le trépas est ouvert, et qui expire dans les bras de la liberté. Telle est la parité de tous les autres biens de l'âme. Tranquillité, franchise, libéralité, constance, résignation, puissance de souffrir. Car tous ont un même fondement, la vertu, qui maintient l'âme en équilibre et invariable. Comment donc? Point de différence entre le contentement et cette constance qui ne font point fléchir les douleurs? Aucune quant au fond même des vertus, beaucoup quant aux situations où chaque vertu se déploie. Car ici, l'âme est dans une aisance et un abandon naturel. Là, c'est une crise contre nature. J'appellerai donc indifférentes les situations qui peuvent recevoir beaucoup, de plus et de moins. Mais dans chacune, les vertus sont égales. Elles ne changent pas avec la circonstance. Que celle-ci soit dure et difficile, ou heureuse et riante, elles n'en deviennent ni pires ni meilleures. Nécessairement donc, ce sont des biens égaux entre eux. De deux sages, l'un ne se comportera pas mieux dans sa joie que l'autre dans ses tortures. Or, deux choses qui n'admettent plus d'amélioration sont égales. Car s'il y a quelque chose au-delà de la vertu, ou qui puisse l'amoindrir ou l'accroître, l'honnête cesse d'être l'unique bien. La concession d'un tel fait est l'entière destruction de l'honnête. Pourquoi? C'est que rien n'est honnête de ce qui se fait à contre-cœur et avec répugnance. Tout acte honnête est volontaire. Apportez-y de la paresse, des murmures, de l'hésitation, de la crainte. Il perd son grand mérite, le contentement de soi. L'honnête ne peut être ou n'est pas la liberté, et qui craint est esclave. L'honnête a toujours avec lui la sécurité, le calme. Si quelque chose le fait reculer ou gémir, ou lui semble un mal, le voilà tout en proie au trouble, au plus grand discord, aux fluctuations. L'apparence du bien l'attirait, le soupçon du mal le repousse. Quand donc nous devrons bien faire, quels que soient les obstacles, voyons-y plutôt des désagréments que des maux. Sachons vouloir et agir de grand cœur. Tout acte honnête s'opère sans injonction ni contrainte. Il est pur et rien de mauvais ne s'y mêle. Je sais ce qu'on peut ici me répondre. Vous voulez, dira-t-on, nous persuader qu'il n'y a nulle différence entre nager dans la joie et lasser le bourreau qui nous torture sur le chevalet. Je pourrais répliquer qu'au dire d'Épicure lui-même, le sage dans le taureau brûlant de Phalaris s'écrierait « Je jouis encore et la douleur ne m'atteint pas ». On s'étonne que je dise qu'il est égal d'être couché sur le lit de Festin ou de garder dans les tortures une intrépide attitude, lorsque Épicure, chose plus incroyable, soutient qu'il est dur de rôtir dans les flammes. Je réponds, soutient qu'il est doux de rôtir dans les flammes. Je réponds qu'il existe une grande différence entre la joie et la douleur. S'il s'agit d'opter, je prendrai l'une et j'éviterai l'autre, l'une étant conforme à la nature et l'autre contraire. À les considérer ainsi, un grand intervalle les sépare. Mais si l'on tient compte des vertus, toutes deux sont égales, et celle qui marche sur des fleurs et celle qui foule des épines. La souffrance, les traverses, les disgrâces quelconques sont de nulle importance. La vertu neutralise tout cela. De même que la clarté du soleil éclipse les astres de moindre grandeur, ainsi douleur, contrariété, injure, tout s'efface, tout est absorbé dans la grandeur de la vertu. N'importe où elle brille, tout ce qui ne tient pas d'elle son éclat reste dans l'ombre. Les désagréments de la vie ne lui font pas plus quand il pleut sur elle qu'une faible ondée sur l'océan. Pour reconnaître que je dis vrai, vois l'homme vertueux, à quelque épreuve que l'honneur l'appelle, y courir sans délai. Que devant lui soit le bourreau, le tortionnaire et le bûcher, il restera ferme. Ce n'est point le supplice, c'est le devoir qu'il envisage. Il a foi dans sa noble mission, comme il aurait foi dans un cœur honnête. Il la juge utile, sûre, propice à ses intérêts. Un acte honorable est vu par lui du même œil que l'honnête homme pauvre, exilé, pâli par la souffrance. Oui, suppose deux sages, dont l'un est comblé de richesses, dont l'autre, qui n'a rien, possède tout en lui-même. Tous deux seront également sages, malgré la disparité de fortune. Il faut, et je dis, porter sur les choses le même jugement que sur les hommes. La vertu est aussi louable dans un corps valide et libre d'entraves que dans un corps malade et garrotté. Donc, tu ne t'applaudiras pas plus de la tienne si le sort préserve ta personne des outrages que s'il te mutile en quelque endroit. Autrement, ce serait juger le maître sur l'extérieur des esclaves. Car toutes ces choses sur lesquelles le sort exerce sa domination sont esclaves. L'argent, le corps, les honneurs, tous fragiles, caduques, périssables et d'une possession incertaine. Il n'est en revanche de libre et d'indestructible que les œuvres de la vertu qui ne sont pas plus désirables quand la fortune les voit avec bienveillance que lorsqu'elle les frappe de son injustice. Le désir est à l'égard des choses ce qu'est l'affection envers les hommes. Tu n'affectionnerais pas plus, je pense, l'honnête homme riche que pauvre, robuste et musculeux, que grêle et de constitution débile. Donc, aussi, tu ne souhaiterais pas plus une situation gaie et paisible qu'une soucieuse et difficile. Sinon, de deux personnages également vertueux, tu préféreras celui qui serait brillant et parfumé à celui qui serait poudreux et négligé. Puis tu en viendras à aimer mieux le sage s'il jouit de tous ses membres parfaitement sains, que s'il est infirme et s'il louche. Peu à peu les dédains croîtront, et de deux hommes, également justes et éclairés, tu choisiras l'un pour ses longs cheveux bien bouclés, plutôt que l'autre dont le front serait un peu chauve. Quand des deux côtés, la vertu est égale, les autres inégalités apparaissent. Car elles ne font point partie de l'homme, elles sont accessoires. Est-il un père assez injuste appréciateur de ses enfants pour aimer mieux le fils bien portant, de taille svelte et élevée, que son frère de courte ou de moyenne stature. Les animaux ne font point de distinction entre leurs petits. Ils s'apprêtent à les allaiter tous indifféremment. Les oiseaux partagent également la pâture à leur couvée. Ulysse est aussi pressé de revoir les rochers de sa pauvre Ithaque qu'Agamemnon les nobles murs de Mycène. Nul n'aime son pays parce qu'il est grand, mais parce qu'il est son pays. Où dans ce discours diras-tu ? Approuvez que la vertu voit chacune de ses œuvres du même œil qu'un père ses enfants, qu'elle les aime également toutes et n'a de prédilection que pour celles qui souffrent. Car l'amour des parents, quand il s'y joint de la piété, est bien plus dévoué. De même, la vertu, sans préférer celle de ses œuvres qui périclitent et sont en détresse, les entoure à l'exemple de bons parents de plus de soins et de complaisance. Mais pourquoi telle vertu n'est-elle pas supérieure à telle autre ? Par la raison que rien n'est plus convenable que ce qui convient, que rien n'est plus uni que l'uni. Tu ne peux dire « telle vertu est plus que telle autre l'égale d'une troisième ». Conséquemment aussi, rien n'est plus honnête que l'honnête. Que si toutes les vertus ont la même nature, les trois genres de biens sont égaux. Oui, ce sont choses égales que se modérer dans la joie et se modérer dans la douleur. La sérénité de l'une ne l'emporte pas sur cette fermeté de l'autre qui, au sein des tortures, dévore ses gémissements. L'une est désirable, il faut admirer l'autre. Toutes deux n'en sont pas moins égales parce que tous les désagréments possibles sont étouffés par une vertu plus grande qu'eux. Les juger inégaux, c'est détourner ses yeux du fond des choses pour s'arrêter à la surface. Les vrais biens ont tous même poids, même volume. Les faux biens sont gonflés de vide. Que de choses ont de l'éclat et de la grandeur, vues de face, qui, mises dans la balance, sont tout autres. Oui, cher Lucilius, tout ce qui tire son mérite de la saine raison est substantiel, impérissable. Il raffermit l'âme, il la porte à une hauteur d'où elle ne descend plus. Mais ce qu'on vante sans réflexion, ce qui, au jugement du vulgaire, s'appelle bien, enfle le cœur de vaine joie. D'autre part, ces mots prétendus que l'on appréhende jette l'épouvante dans les esprits et y produisent la même agitation que chez les animaux, l'apparence du danger. C'est donc sans motif que dans ces deux cas, l'âme s'épanouit ou se froisse. Il n'y a pas plus à se réjouir dans l'un qu'à s'effrayer dans l'autre. La raison seule ne change point, ne se départ point de son opinion, car elle n'obéit point au sens, elle leur commande. La raison est égale à la raison comme la droiture à la droiture. Donc la vertu n'est pas inférieure à la vertu, car elle n'est autre chose que la droite raison. Chaque vertu est une raison, et dès lors elle est droite. Par conséquent, l'une égale l'autre. Telle qu'est la raison, telles sont ses œuvres, toutes logiquement égales. Semblables à leur mère, elles doivent se ressembler entre elles. Je dis qu'entre elles, ces œuvres sont égales parce qu'elles sont droites et honnêtes. Du reste, elles différeront beaucoup, selon la diversité de la matière, qui tantôt est plus ample, tantôt plus restreinte, tantôt illustre, tantôt sans éclat, qui concerne ici une foule d'hommes, là-bas un petit nombre. Dans tous les cas, néanmoins, l'excellence de l'acte est la même. C'est toujours l'honnête. Ainsi, les hommes vertueux le sont tous au même point en tant que vertueux. Mais il y a des différences d'âge. L'un est plus vieux, l'autre est plus jeune. Des différences physiques. L'un est beau, l'autre laid. Des différences de fortune. L'un est riche, l'autre pauvre. L'un a du crédit, du pouvoir. Il est connu des villes et des peuples. L'autre est obscur et le monde ne le connaît pas. Mais par cela qu'ils sont vertueux, ils sont égaux. Les sens ne sont point juges des biens ni des maux. L'utile, le nuisible, ils l'ignorent. Ils ne peuvent prononcer qu'en face des objets, sans prévoyance de l'avenir, sans mémoire du passé. Ils ne savent point les conséquences des choses. Or, c'est de tout cela que se forme la trame et la série des événements, et l'unité d'une vie régulière dans sa marche. C'est donc la raison qui est l'arbitre des biens et des maux, qui tient pour vil l'extérieur et tout ce qui n'est pas elle, et qui regarde les accidents, qui ne sont ni biens ni maux, comme de minimes et très légers accessoires. Tout bien, pour elle, réside dans l'âme. Seulement, il est des biens auxquels elle donne le premier rang et qu'elle aspire à obtenir, comme la victoire, de dignes enfants, le salut de la patrie, puis des biens de résignation dans une maladie grave ou l'exil. Il y a des biens intermédiaires qui ne sont absolument ni conformes ni contraires à la nature, comme de marcher posément ou d'être décemment assis. Car il n'est pas moins, selon la nature, d'être assis que debout ou que de marcher. Les deux premières classes de biens sont de genre opposé, vu qu'il est, selon la nature, de jouir de la tendresse de ses enfants, du bien-être de sa patrie, et qu'il est contre la nature de résister avec courage aux tourments et d'endurer la soif quand la fièvre brûle nos entrailles. Et quoi ? Y aurait-il des biens contre nature ? Non, sans doute, mais il est des situations contre nature où ces biens-là se rencontrent. Car être criblé de blessures et fondre dans les flammes d'un bûcher et se voir terrassé par la maladie, tout cela est contre nature. Mais conserver en cet état une âme indomptable, voilà ce que la nature avoue. Et pour résumer brièvement ma pensée, l'élément du bien est quelquefois contre nature. Le bien ne l'est jamais, parce qu'il n'est aucun bien sans la raison, et que la raison suit la nature. Qu'est-ce en effet que la raison ? L'imitation de la nature. Et le souverain bien ? Une conduite conforme aux vœux de la nature. Il n'est pas douteux, dira-t-on, qu'on ne doive préférer une paix que nul ennemi ne trouble à une paix reconquise par des flots de sang. Une santé jamais altérée à celle qui n'est revenue de graves maladies et des portes du trépas que de hautes luttes, pour ainsi dire, et à grand renfort de patience. Sans doute aussi, ce sera un plus grand bien de se réjouir que d'avoir à roidir son âme pour supporter les déchirements du fer ou de la flamme. Point du tout, car les choses fortuites seules comportent de grandes différences et s'apprécient par l'utilité qu'en tirent ceux qui les reçoivent. Le principe des vrais biens est de se conformer à la nature, condition que tous remplissent également. Quand le Sénat suit l'opinion d'un de ses membres, on ne peut dire « Celui-ci adhère plus pleinement que celui-là. » Tous se réunissent dans le même avis. Ainsi, des vertus. Toutes adhèrent au vu de la nature. Ainsi, des biens. Tous sont conformes à cette même nature. Tel sera mort adolescent, tel autre vieux. Tel autre, encore en bas âge, aura pour toute grâce entrevu la vie. Tous ont été mortels au même degré, bien que le sort ait laissé le vieillard prolonger sa carrière, qu'il ait moissonné le jeune homme en pleine fleur et arrêté l'enfant dès ses premiers pas. On voit des gens que la vie abandonne au milieu d'un repas, ou chez qui la mort est la continuation du sommeil, ou qui s'éteignent dans les embrassements d'une maîtresse. Mettez en regard ceux qui ont péri par le fer ou par la morsure d'un serpent, ou écrasés par une chute d'édifice, ou que de longues contractions de nerfs ont torturé en détail, on peut dire que les uns ont fini mieux, les autres plus mal. Mais ça a toujours été la mort. Elle vient par des chemins divers qui tous aboutissent au même terme. Jamais de plus ou de moins en elle. Elle a pour tous sa commune règle. Mettre fin à la vie. J'en dis autant des biens. L'un habite au milieu de plaisirs sans mélange, l'autre dans la détresse et l'amertume. Celui-ci modère la prospérité. Celui-là dompte les rigueurs du sort. Tous deux sont bien au même titre, quoique le premier ait foulé une terre aplanie et le second d'âpres sentiers. Ils se réduisent à une même fin. Ils sont bons, ils sont louables, ils ont la vertu et la raison pour compagne. La vertu égalise tout ce qu'elle avoue comme sien. Mais n'admire pas cette doctrine comme purement stoïcienne. Chez Épicure, il y a deux sortes de biens dont se compose la suprême béatitude. L'absence de douleur pour le corps et de trouble pour l'âme. Ces biens ne s'accroissent plus dès qu'ils sont complets. D'où viendrait l'accroissement où il y a plénitude? Que le corps soit exempt de douleur, qu'ajoutera-t-on à cet état négatif? De même qu'un ciel serein n'est pas susceptible d'une clarté plus vive dès qu'il est pur de tout nuage et entièrement net, ainsi l'homme qui veille sur son corps et sur son âme, qui ourdit au moyen de l'un et de l'autre sa félicité, se trouve dans un état parfait et au comble de ses désirs, quand ni son âme n'est en proie aux orages, ni son corps à la souffrance. Si quelques douceurs de plus lui viennent du dehors, elle n'ajoute rien au souverain bien, mais pour ainsi dire, elle l'assaisonne et l'égaie, car le bonheur absolu de la nature humaine se contente de la paix de l'âme et du corps. Je vais encore te montrer chez Épicure une autre division des biens, toute semblable à la nôtre. Ainsi, il est des choses qu'il souhaiterait de préférence comme le repos du corps libre de tout malaise et la quiétude d'une âme heureuse par la conscience de ses vertus. Il en est d'autres dont il voudrait que l'occasion ne vînt pas, et que néanmoins il loue et approuve fort. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, une patience à l'épreuve de la mauvaise santé et des plus vives douleurs. Patience qui fut la sienne dans le dernier et le plus heureux jour de sa vie. Il disait en effet, « Ma vessie et mon ventre ulcéré me torturent si fort qu'il n'y a point d'accroissement possible à ma souffrance. » Et néanmoins, c'est pour moi un heureux jour. Or, être heureux ainsi n'appartient qu'à l'homme en possession du souverain bien. Tu vois donc chez Épicure, même, ces biens dont tu aimerais mieux ne pas faire l'épreuve, et que pourtant, puisque le sort l'a voulu, il faut embrasser avec amour et louer à l'égal des plus grands biens. Il en est l'égal, peut-on le nier? Ce bien qui couronne une heureuse carrière et pour lequel les dernières paroles d'Épicure sont des actions de grâce. Permets-moi, vertueux Lucilius, une assertion plus hardie encore. Si jamais bien pouvait être plus grand que d'autres, selon moi, ceux dont l'apparence rebute auraient ce privilège sur ceux qui ont pour élément la mollesse et la sensualité. Il est plus grand de rompre les difficultés que de modérer ses joies. C'est par un même principe, je le sais, qu'on supporte la bonne fortune avec sagesse et la mauvaise avec fermeté. Celui-là peut être aussi brave qui veille en sécurité aux portes du camp dont nul ennemi ne menace les lignes que celui qui, les jarrets coupés, combat sur ses genoux et ne rend point ses armes. Honneur au courage est le mot qu'on adresse à ceux qui reviennent sanglants des batailles. Je louerai donc de préférence ces vertus d'épreuve et de dévouement qui ont su lutter contre la fortune. Je n'hésite pas à le dire. La main mutilée de Mucius, dont les chairs se tordent dans la flamme, est plus glorieuse que celle du plus brave homme demeuré sans blessure. Fier contempteur de cette flamme et de l'ennemi, Mucius regarda sa main se fondre lentement sur le brasier, tant qu'enfin Porsena, heureux de son supplice mais jaloux de sa gloire, le fit arracher de force du réchaud brûlant. Et cette vertu, je ne la placerai pas au premier rang? Je ne la préférerai pas à un bonheur tranquille, respecté de la fortune, d'autant qu'il est plus rare de vaincre un ennemi par le sacrifice de sa main que par le fer dont elle est armée. Mais, vas-tu me dire, souhaiterais-tu ce bonheur pour toi? Pourquoi non? Qui n'ose le souhaiter, n'oserait s'en rendre digne. Dois-je plutôt désirer que de jeunes esclaves viennent masser les parties les plus chatouilleuses de mon corps, qu'une courtisane ou un adolescent transformé en courtisane me déroidisse artistement les doigts? Heureux Mucius, qui livra sans peur sa main au charbon, plus heureux que s'il l'eût offerte à un massage voluptueux. Il répara pleinement sa méprise, sans armes et sans main, il mit fin à la guerre, et ce brave manchot fut vainqueur de deux rois. Lettre 67. Que tout ce qui est bien est désirable, patience dans les tourments. Pour commencer par un propos banal, je te dirai que le printemps vient de s'ouvrir. Mais en s'approchant de l'été, lorsqu'il nous devait de la chaleur, il s'est refroidi, et l'on ne s'y fit point encore, car souvent il nous rejette dans l'hiver. Veux-tu savoir combien jusqu'ici il a été peu sûr? Je n'affronte pas encore l'eau toute froide, mais j'en tempère la crudité. C'est, diras-tu, ne supporter ni chaud ni froid. Cela est vrai, cher Lucilius. J'ai déjà bien assez des glaces de l'âge, moi qui, au fort de l'été, me sens à peine dégourdi, et qui en passe la plus grande partie sous mes couvertures. Je rends grâce à la vieillesse de m'avoir cloué dans mon lit. Et pourquoi ne la remercierais-je pas à ce titre? Tout ce que je ne devais pas vouloir, j'ai cessé de le pouvoir. C'est avec mes livres que j'aime le plus à m'entretenir. Si parfois il me survient de tes lettres, je m'imagine être avec toi. Et l'illusion est telle qu'il me semble non que je t'écris, mais que ma voix répond à la tienne. Cherchons donc aussi ensemble, comme dans un entretien réel, la réponse à la question que tu me fais. Toute espèce de bien est-elle désirable? Si c'est un bien, dis-tu, de subir la torture avec courage, d'être héros sur le bûcher et patient dans la maladie, il s'ensuit que toutes ces souffrances sont désirables. Or, je ne vois rien là qui soit digne de souhait. Jusqu'ici, assurément, je ne sache pas qu'on se soit acquitté d'un vœu pour avoir été battu de verge, torturé par la goutte ou allongé par le chevalet. Fais ici une distinction, Lucilius, et tu verras dans tout cela quelque chose de désirable. Je serai bien aise d'échapper aux tourments, mais s'il faut les subir, mon vœu sera de m'y comporter intrépidement en homme d'honneur et de courage. Je dois sans doute vouloir que la guerre n'arrive point. Mais si elle arrive, mon vœu sera de supporter noblement les blessures, la faim, toutes les nécessités qu'apporte la guerre. Je ne suis pas assez fou pour souhaiter d'être malade. Mais si je dois l'être, Mon vœu sera de ne faire acte ni d'impatience ni de faiblesse. Ainsi, ce qui est désirable n'est point le mal, mais bien la vertu qui l'endure. Quelques-uns de nos stoïciens estiment que la fermeté dans les tourments n'est pas à désirer ni à repousser non plus, parce que l'objet de nos vœux doit être un bonheur sans mélange et sans trouble, et inaccessible aux contrariétés. Tel n'est point mon avis. Et pourquoi ? D'abord, il ne peut se faire qu'une chose soit vraiment bonne et ne soit pas désirable. Ensuite, si la vertu est à désirer et qu'il n'y ait nul bien sans elle, tout bien est, comme elle, désirable. Et puis, quand même la fermeté dans les tourments ne serait pas chose désirable, je demanderai encore si le courage ne l'est pas. Car enfin, le courage méprise et défie les dangers. Son plus beau rôle, son œuvre la plus admirable, est de ne pas fuir devant la flamme, d'aller au-devant des blessures et au besoin, loin d'esquiver le coup mortel, de le recevoir à poitrine ouverte. Si le courage est désirable, la fermeté dans les tourments l'est aussi. C'est en effet une partie du courage. Distingue bien tout cela, je le répète, et rien ne fera plus équivoque pour toi. Ce qu'on doit désirer, ce n'est pas de souffrir, mais de souffrir courageusement. Voilà ce que je souhaite, le courage, car voilà la vertu. Mais qui formera jamais un pareil souhait? Il y a des vœux clairs et déterminés, ceux qui se font pour une chose spéciale. Il y en a d'implicites, quand un seul en embrasse plusieurs. Par exemple, je souhaite une vie honorable. Cette vie honorable se compose d'actes variés. Elle comprend le tonneau de Régulus, la blessure qu'élargit Caton de sa propre main, l'exil de Rutilius, la coupe empoisonnée qui fit monter Socrate du cachot dans les cieux. Ainsi, en souhaitant une vie honorable, j'ai du même coup souhaité les épreuves sans lesquelles parfois elle est impossible. Ô trois et quatre fois heureux, vous tous qui, pour sauver les hauts remparts de Troie, sous les yeux paternels, mourûtes avec joie. Souhaiter à quelqu'un un pareil sort, n'est-ce pas avouer qu'il fut désirable? Décius se dévoue pour la République. Et, poussant son cheval, il court chercher la mort au milieu des ennemis. Son fils, après lui, émule du courage paternel, répète les solennelles paroles qui sont déjà pour lui un souvenir de famille, et s'élance au plus épais de la mêlée, sans nul souci que de sauver Rome par sa mort du courroux céleste, et convaincu qu'un si beau trépas est digne de son ambition. Doutes-tu donc que ce ne soit une grande fidélité de faire une fin mémorable, marquée par quelque œuvre généreuse? Dès qu'un homme souffre les tourments avec courage, il fait usage de toutes les vertus. Une seule peut-être est en évidence et frappe le plus les yeux, la patience. Mais là est aussi le courage, dont la patience, la puissance de souffrir et la résignation ne sont que des rameaux. Là est la prudence, sans laquelle il n'est point de conseil, et qui détermine à supporter l'inévitable, avec le plus de fermeté possible. Là est la constance, que rien ne peut chasser de son poste, qu'aucune violence n'écarte et ne fait départir de ses résolutions. Là se trouve réuni l'indivisible cortège des vertus. Tout acte honorable est le fait d'une seule vertu, mais sous l'inspiration commune des autres. Or, ce qu'approuvent toutes les vertus, bien qu'une seule semble l'exécuter, est chose désirable. Et quoi? Ne verrais-tu de désirable que ce qui vient par les voies de la mollesse et de la volupté, que ce que l'homme salue par de joyeux festons à sa porte? Il est des voluptés amères. Il est des vœux héroïques. Que fête non point une foule banale de complimenteurs, mais l'hommage d'une vénération religieuse. Ne penses-tu point, par exemple, que Régulus souhaita de retourner à Carthage? Entre par la pensée dans cette âme si haute. C'est partout un moment du vulgaire et de ses préjugés. Vois, aussi grande que tu dois la voir, l'image de cette vertu, si belle et si magnifique, qui veut, au lieu d'encens et de guirlandes, les sueurs, le sang de ses fidèles. Considère Caton portant ses mains si pures sur ses entrailles sacrées, et déchirant, élargissant ses plaies. Iras-tu donc lui dire « Que n'es-tu plus heureux ? Je le voudrais comme toi. Je souffre de ton supplice. » Plutôt que « Je te félicite de ce que tu fais. » Ceci me rappelle notre Démétrius, qui compare une vie toute tranquille et sans nulle agression de la fortune à une mer morte. Ne rien avoir qui te réveille, qui te mette au défi, dont l'annonce ou le choc subi te force d'éprouver la fermeté de ton âme, mais croupir dans un repos exempt de toute secousse. Ce n'est point tranquillité, c'est bonasse. Attalus, le stoïcien, disait souvent « J'aime mieux que la fortune me tienne dans ses camps qu'à sa cour. Je subis la torture, mais avec courage, tout va bien. Je péris, mais avec courage, tout va bien. » Entends Épicure te dire « Cela même est doux. » Pour moi, je n'appliquerai jamais l'épithète de molle à une doctrine si honnête et si austère. La flamme me dévore sans me vaincre. Et il ne serait pas désirable, je ne dis point qu'elle me dévore, mais qu'elle ne me vainque pas. Rien de plus noble, de plus beau que la vertu. Tout est bon, tout est désirable dans ce qui s'opère par son commandement. Lettre 68. La retraite n'en point faire vanité. J'approuve ta résolution. Cache-toi au sein du repos, et cache même ton repos. Si tu ne le fais d'après les maximes des stoïciens, tu suivras pourtant leur exemple, sache-le bien. Mais tu le feras aussi d'après leurs maximes, et pour peu que tu le veuilles, tu les trouveras raisonnables. Nous ne poussons point le sage à prendre part à tout gouvernement, ni en toute occurrence, ni sans relâche. D'ailleurs, en lui donnant une république digne de lui, c'est-à-dire le monde, nous ne le plaçons pas en dehors de l'autre, lors même qu'il s'en est retiré. Peut-être même, il n'abandonne un coin de terre obscure que pour passer sur un plus vaste et plus obscur théâtre. Peut-être, du ciel où il est assis, reconnaît-il qu'une chaise curule ou un tribunal ici-bas était pour lui de bien humbles sièges. Je te confie ici ma pensée. Jamais le sage n'est moins occupé que quand les choses divines et humaines se dévoilent à ses yeux. Revenons au conseil que je te donnais. Que ton repos soit ignoré. Garde-toi d'afficher la philosophie et la retraite. Couvre d'autres prétextes ta détermination. Dis que c'est faiblesse de santé, de tempérament, que c'est paresse. Mettre sa gloire à ne rien faire est une lâche ambition. Certains animaux, pour qu'on ne puisse les découvrir, brouillent leur voix alentour de leur gîte. Il te faut faire de même, ou il ne manquera pas de gens pour te relancer. Habituellement, on dédaigne les endroits découverts, on fouille ce qui est mystère et obscurité. Les choses scellées tentent le voleur. Il ne fait point cas de ce qu'on n'enferme point. Devant une maison ouverte, il passe outre. Telle est la pente du vulgaire, de l'ignorance, avide de pénétrer tous les secrets. Le mieux est donc de ne pas faire sonner trop haut sa retraite. Or, c'est le faire en quelque sorte que de se trop sceller, de s'exiler trop loin de la vue des hommes. L'un s'est confiné à Tarente, l'autre s'est enterré à Naples. Celui-ci, depuis longues années, n'a point passé le seuil de sa porte. C'est convoquer la foule autour de sa retraite que d'en faire le texte d'une histoire quelconque. Une fois dans la solitude, il ne faut point tâcher que le monde s'entretienne de toi. Il faut t'entretenir avec ta conscience. Et de quoi ? De ce qu'on répète si volontiers sur le compte des autres, du mal que tu dois penser de toi-même. Tu en prendras l'habitude, et de dire la vérité, et de l'entendre. Mais soigne surtout la partie que tu sentiras en toi la plus faible. Chacun connaît ses infirmités corporelles. Ainsi, tel soulage son estomac par le vomissement, tel autre le soutient par une fréquente nourriture. Un troisième coupe son régime par la diète qui débarrasse et purge son corps. Ceux qui sont sujets à la goutte s'abstiennent soit de vin, soit de bain. Insouciants sur tout le reste, ils ne songent qu'au mal qui les attaque habituellement. Notre âme aussi a des parties malades auxquelles doivent s'appliquer nos soins. Que fais-je dans ma retraite? Je panse mon ulcère. Si je te montrais un pied gonflé, une main livide ou une jambe raccourcie par le dessèchement des nerfs, tu me permettrais de rester en place et de tout mettre en œuvre pour me guérir. J'ai un mal plus grand que tout cela, mais je ne puis te le montrer. C'est dans mon âme qu'est le gonflement, la masse d'humeur, l'abcès impur. Ne va pas me louer, ne va pas dire « Oh, le grand homme, il a tout dédaigné, il a condamné les folies de la vie humaine, il a tout fui. » Je n'ai rien condamné que moi. Ce n'est pas à moi qu'il faut vouloir venir pour profiter à mon exemple. Tu te trompes si tu comptes tirer d'ici quelque secours. Ce n'est pas un médecin, c'est un malade qui y demeure. J'aime mieux qu'en me quittant, tu dises « Je croyais cet homme riche de bonheur et de science. J'avais soif de l'entendre. Je suis déchu de mon espoir. Je n'ai rien vu qui piqua ma curiosité, qui m'invita à revenir. » Si tel est ton sentiment, ton langage, tu auras gagné à me voir. J'aime mieux que ma retraite excite ta compassion que ton envie. La retraite, diras-tu. Toi, Sénèque, tu me la conseilles. Tu te laisses aller aux phrases d'Épicure. Oui, je te prêche le repos. Mais un repos où tu fasses de plus grandes et de plus belles choses que celles que tu quitteras. Frapper aux portes orgueilleuses des grands, tenir registre des vieillards sans héritier, avoir grand crédit sur la place, sont des avantages en but à l'envie, éphémères et, à vrai dire, ignobles. Tel l'emporte beaucoup sur moi par son influence sur les juges, tel autre par son temps de service militaire et le haut rang qu'il lui a valu. Un autre par la foule de ses clients. Cette foule que je ne puis avoir lui donne plus de crédit. Est-ce un grand mal que les hommes triomphent de moi, si à ce prix je triomphe de la fortune? Plutôt Dieu que cette détermination eût été de bonheur embrassée par toi, et que ce ne fût pas en présence de la mort que nous songeassions à vivre heureusement. Aujourd'hui même, tarderons-nous encore? Car que de choses sur la frivolité, sur le danger desquels la raison devait nous convaincre et que l'expérience nous dévoile maintenant. Faisons comme ceux qui quittent les derniers la barrière et qui forcent de vitesse pour regagner le temps perdu. Que l'éperon redouble ses coups. Nous sommes dans l'âge qui se prête le mieux aux études de la sagesse. La vie a jeté son écume. Les passions indomptées d'une ardente jeunesse sont bien amorties. Peu s'en faut qu'elles ne soient éteintes. Mais ce que tu apprends au moment du départ, quand te servira-t-il? Et à quoi? À partir meilleur. Au reste, n'en doute pas, aucun âge n'est plus propre à la sagesse que celui où des épreuves multipliées et de longues et fréquentes souffrances ont dompté la nature et qui arrivent aux salutaires pratiques par l'épuisement des passions. Cette heureuse saison est la nôtre. Quiconque, dans la vieillesse, est parvenu à être sage, le doit à ses années. Lettre 69. Que les fréquents voyages sont un obstacle à la sagesse. Je n'aime pas à te voir changer de lieu et voltiger de l'un à l'autre. D'abord, de si fréquentes migrations sont la marque d'un esprit peu stable. La retraite ne lui donnera de consistance que s'il cesse d'égarer au loin ses vues et ses pensées. Pour contenir l'esprit, commence par fixer le corps, autre fugitif. Et puis, c'est la continuité des remèdes qui les rend surtout efficaces. N'interromps point ce calme et cet oubli de la vie antérieure. Laisse à tes yeux le temps de désapprendre et à tes oreilles de se faire au langage de la raison. Dans chacune de tes excursions, ne fût-ce qu'en passant, quelque objet propre à réveiller tes passions viendra t'assaillir. L'homme, qui s'efforcera d'arracher l'amour de son cœur, évitera tout ce qui rappellerait la personne aimée, car rien n'est plus sujet que l'amour aux recrudescences. De même, pour bannir tout regret des choses qui enflammèrent nos désirs, on détournera ses yeux et ses oreilles de ce qu'on aura quitté. La passion est prompte à la révolte. N'importe où elle se tourne, quelque chose se présente qui intéresse ses préoccupations. Point de mauvais penchant qui n'ait à offrir son appât. L'avarice promet de l'argent, la mollesse mille voluptés diverses. L'ambition, la pourpre et les applaudissements, et par suite la puissance, et tout ce que peut la puissance. Chaque vice te sollicite par un salaire. La retraite veut des sacrifices gratuits. Un siècle entier suffirait à peine pour que des vices enhardis par une longue licence puissent se réduire et accepter le joug. Que sera-ce si le court espace qui nous reste est morcelé par des lacunes? Pour amener une œuvre quelconque à la perfection, il faut la vigilance et l'attention les plus soutenues. Si tu me veux croire, médite bien ces vérités. Exerce-toi soit à bien accueillir la mort, soit à la prévenir, si la raison t'y engage. Il n'importe qu'elle vienne à nous ou que nous allions à elle. Persuade-toi de la fausseté du mot que répètent tous les ignorants. Heureux qui meurt de sa belle mort. Et puis, tu peux te dire, nul ne meurt qu'à son jour. Tu ne perds rien de ta part de temps. Qu'abandonnes-tu? Ce qui n'est pas à toi.